السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، nous avons eu le privilège de pouvoir achever la lecture du commentaire des deux premiers hadiths parmi les hadiths de l'érudit al-Nawawi et du commentaire donc qui a été fait par le noble Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad Hafidhahullahu Ta'ala. Et aujourd'hui nous continuons avec le hadith numéro 3, le hadith de Abu Abdurrahman Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, et nous allons tenter donc d'en lire également le commentaire en demandant l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala.
Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، الحديث numéro 3 عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما rapporte: J'ai entendu le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dire: L'islam est basé sur cinq piliers: l'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakah, le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah et le jeûne du mois de Ramadan, rapporté par Al-Bukhari ou Muslim.
Naam. Donc ici, ce hadith, c'est celui qui a été rapporté par Abu Abdurrahman Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma. Nous disons radiyallahu anhuma en utilisant donc le duel afin d'invoquer en faveur de Abdullah ainsi qu'en faveur de son père Omar. Abu Abdurrahman, c'était ce que l'on appelle la kunya de Abdullah, fils de Omar ibn al-Khattab. Et il a rapporté qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: l'islam est basé sur cinq piliers: l'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah et le jeûne du mois de Ramadan. Ici, une petite précision, nous trouvons dans ce hadith « وَصَوْمِ رَمَضَان ». Il est peut-être plus opportun de garder cela ainsi et de dire « et le jeûne de Ramadan ». Et c'est également l'occasion d'expliquer le fait qu'il n'y a pas de mal à dire « le jeûne du mois de Ramadan ». Il n'y a pas de mal à dire « le jeûne de Ramadan ». Certains salafs ont réprouvé le fait de dire « le mois » ou plutôt, excusez-moi, le jeûne de Ramadan. Mais en vérité, il n'y a aucun mal en cela. Donc on peut dire les deux. Et là, étant donné que dans ce hadith, nous trouvons Saum Ramadan et non pas Saum Shahri Ramadan, il est peut-être préférable, Wallahu A'lam, de rester fidèle à ce qui est présent ici, étant donné qu'il n'y a aucun mal à le dire. Et dans d'autres textes, nous pouvons trouver le jeûne du mois de Ramadan. Donc au niveau de la traduction, il y avait peut-être cette petite précision à faire concernant ce point-là. Et il a donc été rapporté par ou recueilli par Al-Bukhari et Muslim.
Concernant sa parole, l'islam est basé sur cinq piliers. C'est là une preuve de la grande importance de ces cinq éléments. L'islam est basé sur ces cinq piliers, et c'est là une comparaison avec les constructions matérielles. Ainsi, de la même manière qu'un édifice repose sur ses piliers, l'islam repose sur ces cinq piliers. Quant au fait de s'être limité à la mention de ces cinq piliers, la raison en est qu'ils vont venir servir de base à d'autres éléments auxquels ils seront subordonnés.
Naam. Ici, dans ce premier point, composant donc le commentaire du Cheikh Abdel Mohsin de ce hadith, On peut retenir plusieurs choses. Premièrement, le lien et le rapport et la relation qu'il y a entre ces cinq piliers ou ces cinq éléments et le restant des éléments composant la religion. En effet, le Cheikh Abd al-Muhsin a dit « L'islam est basé sur ces cinq piliers » et c'est là une comparaison, c'est-à-dire une comparaison imagée avec les constructions matérielles. Ainsi, de la même manière qu'un édifice repose sur ses piliers, l'islam repose sur ces cinq piliers. Donc, ça nous met en avant l'importance de ces cinq piliers-là. Ce qu'il a dit, donc, c'est dans le sens où le restant des éléments composant la religion vont venir s'ajouter à ces cinq piliers. En reposant sur ces piliers-là et en les complétant. Mais donc la base, c'est ces cinq piliers-là que nous retrouvons dans le hadith de Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma. Le deuxième point que l'on peut retenir de ce premier passage, c'est la méthode qui a été utilisée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et que le commentateur hafizahullah a mis en avant ici, à savoir le fait d'expliquer en ayant recours à la comparaison imagée. Il a comparé donc ces piliers-là, les piliers de l'islam, à quoi ? Il les a comparés aux piliers d'un édifice. Et ce, afin de faire comprendre l'enseignement qu'il a voulu transmettre, sallallahu alayhi wa sallam. La cause pour laquelle d'autres éléments n'ont pas été mentionnés, elle va être mentionnée, va être abordée plus tard, inshallah, dans la suite du commentaire. C'est notamment le cas du djihad. Pourquoi, par exemple, le djihad n'a pas été également mentionné parmi ces piliers-là nous allons le voir plus tard, bi-ithnillah.
Al-Nawawi a rapporté ce hadith après le hadith Jibril.
Naam. Al-Nawawi, ici, donc, il y a un petit chapeau sur le deuxième A. Al-Nawawi, c'est une manière de le dire. La plus courante, c'est Al-Nawawi. Mais Al-Nawawi, ça se dit également. On peut dire Al-Nawawi. Et on peut dire également « An-Nawawi ». Et ici, apparemment, le traducteur a opté pour cela. Et regardez donc dans le commentaire. Non, par contre, le shir, Abd al-Muhsin, il a orthographié de la sorte « An-Nawawi », sans la prolongation. « An-Nawawi ». Mais les deux sont possibles.
« An-Nawawi » a rapporté ce hadith après le hadith Jibril, dans lequel ces cinq piliers sont déjà mentionnés. Et ce, pour mettre en évidence l'importance de ces cinq piliers, et parce qu'ils sont les fondations sur lesquelles repose l'islam. Ce hadith nous amène donc un élément supplémentaire par rapport au hadith de Jibril.
Naam, les fondations, une fondation, ça, c'est féminin. Donc on dira plutôt sur lesquelles, avec deux L et un E, sur lesquelles repose l'islam. Et parce qu'ils sont les fondations sur lesquelles, avec un L et un E supplémentaire, repose l'islam. An-Nawawi, c'est l'auteur du livre de base. Et l'auteur du commentaire, c'est le Cheikh Abd al-Muhsin al-Abbad, hafidhahullah ta'ala. Donc il a rapporté ce hadith après le hadith de Jibril. Qui c'est qui peut nous rappeler en substance à quoi correspond le hadith de Jibril ? En résumé, quels sont les points principaux contenus dans ce hadith, le hadith de Jibril ? Naam.
Pour nous informer d'une part des cinq piliers de l'islam.
Donc on y trouve les cinq piliers de l'islam.
Les six piliers de la foi.
Les six piliers de la foi.
Et les différents degrés de ce qu'on appelle l'ihsan.
Non, donc le pilier unique que constitue Al-Ihsan, qu'on a expliqué avant-hier comme étant la bienfaisance ou l'excellence, non, c'est un seul et même pilier, et on peut dire qu'il y a deux degrés dans cela, non, et ensuite
aussi que sur le signe de la fin des temps, sur l'heure.
Non, sur l'avènement de l'heure et sur ses signes précurseurs. Non. Donc on a retrouvé dans le hadith de Jibril la mention qui est faite de quoi ? Des cinq piliers de l'islam. à l'exception du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas donné cette comparaison imagée dans le hadith de Jibril. On se remémore le hadith de Jibril concernant cette partie-là. L'homme qui est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, cet homme qui s'est avéré être Jibril, l'ange Jibril qui s'était présenté sous forme humaine. Il est venu, il s'est présenté devant le prophète alayhi salatu wassalam, il s'est assis devant lui et il lui a dit « Ô Muhammad, informe-moi à propos de l'islam. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « L'islam, c'est que tu attestes que nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, que tu accomplisses la prière, que tu t'acquittes de la zakat, na'am, que tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu accomplisses le pèlerinage si tu en as la capacité. » Par contre, dans le hadith d'Ibn Omar, on retrouve quelque chose supplémentaire. C'est le fait que le prophète, alayhi salatu wassalam, il ait exprimé le fait que ce par quoi il a défini l'islam dans le hadith de Jibril, ça représente les fondements, les fondations de l'islam. Étant donné qu'il a dit « Bunya al-islamu ala khams » L'islam est basé sur 5 piliers. Donc c'est cela, l'enseignement supplémentaire contenu dans le hadith de Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma. Ce hadith nous amène donc un élément supplémentaire par rapport au hadith de Jibril, comme l'a dit donc ici le Cheikh Abdel Mohsin, hafidhahullah ta'ala.
Le premier des 5 piliers sur lequel est basé l'islam est la double attestation qui en représente le fondement même. Le reste des piliers et tout autre élément lui sont subordonnés. Ainsi, ces piliers et toute autre œuvre ne sont d'aucune utilité s'ils ne reposent pas sur ces deux attestations qui sont inséparables. La deuxième attestation indiquant que Mohammed est le messager d'Allah doit obligatoirement accompagner la première qui dit « Il n'y a de divinité en droit d'être adoré qu'Allah ». Cette première attestation implique que rien ni personne ne doit être adoré en dehors d'Allah, alors que la seconde implique que les actes d'adoration doivent être conformes aux enseignements du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ces deux fondements sont nécessaires à l'acceptation de tout acte que l'homme accomplit. Il faut donc être totalement sincère envers Allah seul et faire en sorte que ces adorations se conforment aux seuls enseignements du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam.
Dans ce passage de son commentaire, le Cheikh Abdel Mohsin, hafidhahullah ta'ala, a également abordé plusieurs points. Nous avions vu précédemment qu'il avait établi la relation qu'il y a entre les composantes de la religion de l'islam et les piliers de l'islam. Et il avait donc exposé le fait que les différents éléments composant la religion de l'islam reposent sur ces 5 piliers. Cette fois-ci, il aborde la relation qu'il y a entre ces piliers-là. Et il a dit le premier des 5 piliers sur lesquels est basé l'islam est la double attestation qui en représente le fondement même. Donc les 5 piliers de l'islam, ils représentent les fondements de l'islam. Et le premier des piliers de l'islam, il représente le fondement des 4 autres piliers. Ces 4 autres piliers donc, vont donc être basés sur ce premier. Également, il a évoqué, et il a exposé de manière résumée, le sens de ce premier pilier, à savoir cette double attestation, la double attestation de foi, qui revient a attesté que nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Et il a dit la deuxième attestation indiquant que Muhammad est le messager d'Allah doit obligatoirement accompagner la première qui dit il n'y a de divinité en droit d'être adorée qu'Allah. Et nous pouvons même dire que si dans certains textes nous ne trouvons que la première attestation qui est mentionnée, il faut savoir que cela inclut forcément la deuxième. Dans certains textes, tu trouves qu'il n'est fait mention que de la première attestation, à savoir l'attestation que nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah. Sans que ne soit forcément mentionné l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Il faut que tu saches que c'est forcément inclus. Pourquoi ? Car tu ne pourras pas en réalité concrétiser la première attestation de foi, c'est-à-dire le fait d'attester que nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah, si ce n'est qu'en te basant et en te conformant au modèle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en attestant que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Également, le shir, hafidhahullah ta'ala, a expliqué ou a mis en avant les implications de ces deux attestations de foi. Et il a dit, cette première attestation, donc première attestation qui revient à dire, j'atteste que nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah, cette première attestation implique que rien ni personne ne doit être adoré en dehors d'Allah. Voilà ce qu'implique le fait de dire La ilaha illallah. Ça implique que rien ni personne ne doit être adoré en dehors d'Allah. Ce qui signifie donc que l'adoration est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que la seconde implique que les actes d'adoration doivent être conformes aux enseignements du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'exclusivité du culte voué à Allah tabaraka wa ta'ala d'une part, et l'exclusivité du suivi qui doit être accordé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le shir également, dans ce bref passage, il a abordé le fait que ces deux fondements-là que vous venez d'entendre sont nécessaires à l'acceptation de tout acte que l'homme accomplit. Donc en plus d'être les fondements de cette religion-là, avec tout ce que cela implique, ça correspond également aux conditions de l'acceptation des œuvres. C'est-à-dire que si tu veux que ton œuvre soit acceptée, il faut impérativement qu'elle soit en conformité avec ces deux fondements. Il faut donc impérativement que ton œuvre soit sincèrement et exclusivement vouée à Allah tabaraka wa ta'ala, et que tu ne recherches donc par cette œuvre-là que l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala et sa récompense dans l'au-delà. Et il faut également impérativement que cette œuvre soit en conformité avec la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Na'am. Et si ces deux attestations de foi représentent ou constituent les fondements de la religion et correspondent aux conditions de l'acceptation des œuvres, cela signifie que ces deux fondements revêtent une importance toute particulière dans cette religion, dans la religion de l'islam. Et c'est ainsi que tu trouveras que ces deux principes-là constituent les bases fondamentales de la voie, de la méthodologie, des adeptes et des partisans de la sunna et du groupe uni sur la vérité. Et cela va apparaître dans leur prêche, dans la manière qu'ils ont d'appeler à Allah tabaraka wa ta'ala, d'appeler les gens à l'islam, de présenter l'islam aux gens, d'exposer l'islam aux gens. Ils vont donc insister sur quoi ? Sur ces points-là. Pourquoi ? Parce que ce sont les points fondamentaux de cette religion. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a rapporté de lui Ibn Abbas radiyallahu anhuma, lorsqu'il a envoyé Mu'adh ibn Jabal radiyallahu an au Yémen, il lui a présenté la situation, il lui a dit, tu vas te présenter à des gens qui font partie des gens du livre. Fais donc en sorte que la première des choses à laquelle tu les appelles soit qu'ils attestent que nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah. Et on a dit que bien qu'ici, l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, n'ait pas été mentionné ou ne soit pas mentionné, ça ne signifie pas que ce n'est pas présent dans cela. Car comme nous l'avons expliqué précédemment, le fait de concrétiser l'attestation que nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah passe inévitablement par le fait de concrétiser le suivi exclusif du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce dernier, alayhi salatu wa sallam, a dit à Mu'adh, fais donc en sorte que la première des choses à laquelle tu les appelles, ce soit l'attestation que nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah. Et dans une autre version, soit qu'ils unifient Allah. Suite à cela, il lui a dit, et si jamais ils t'obéissent dans cela, alors informe-les qu'Allah leur a rendu obligatoire 5 prières de jour comme de nuit. Et si jamais ils t'obéissent dans cela, alors informe-les qu'Allah leur a rendu obligatoire le fait de verser une aumône qui serait prise donc de leurs riches parmi, des riches parmi eux et qui serait reversée à ceux parmi eux qui sont pauvres. Et ainsi de suite, donc jusqu'à la fin du hadith. Tu retrouves donc dans ce hadith le fait que l'appel à l'islam doit être basé sur ce sur quoi est basé l'islam, à savoir ces fondements-là qui correspondent au premier pilier de l'islam et que nous pouvons exprimer comme étant l'appel à l'affirmation de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala et l'appel au suivi exclusif du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous rajoutons que cet appel doit être un appel détaillé. Et c'est là quelque chose d'important. Pourquoi ? Car tu trouveras de nombreux groupes se réclamant de la sunna qui, depuis bien longtemps, veulent faire croire à la masse des musulmans qu'ils appellent au tawhid, à l'affirmation de l'unicité d'Allah, qu'ils appellent au suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais en vérité, ce n'est que de la poudre aux yeux. Et ce ne sont que des faux semblants. Et le musulman averti et éveillé se rendra compte de la supercherie lorsqu'il verra qu'en vérité, ces groupes-là ne se contentent que de brèves allusions. Et cette réalité-là qui est amère est présente jusqu'à nos jours. Et on peut même dire qu'elle est surtout présente de nos jours. Et cela est constatable de la part de certains groupes se réclamant de l'islam, tels que le groupe d'Al-Ikhwan al-Muslimoun, qui se sont eux-mêmes nommés comme étant Al-Ikhwan al-Muslimoun, les frères musulmans. C'est le cas également du groupe d'Établir, que nous mentionnons souvent, étant donné qu'ils sont les groupes les plus actifs, les groupes égarés les plus actifs à notre époque. Et qu'il est donc important d'avertir la masse des musulmans contre leur danger. Tu trouveras que ces gens-là, ils vont, de manière superficielle et brève, voire bâclée et négligée, appeler au tawhid ou appeler au suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a une différence fondamentale entre leur manière de prêcher à l'islam et la manière dont les adeptes de la sunna et du groupe uni sur la vérité, al-salafiyin, appellent à l'islam. Car en vérité, les adeptes de la sunna, les partisans de la sunna, ils appellent au tawhid et ils appellent au suivi exclusif du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de manière détaillée. Ils ne se contentent pas de brèves allusions. Et c'est là donc quelque chose d'important. Et il faut se rappeler sans cesse ces principes-là, bien qu'ils puissent être considérés comme étant évidents et clairs. Pour certains, certes, ils sont évidents et clairs, mais il est impératif de sans cesse se les rappeler, étant donné que l'être humain, il est sujet à l'oubli, à l'insouciance et à la négligence. Et étant donné également que bon nombre de gens, malgré la clarté et l'évidence de ces sujets-là, ignorent l'importance qu'ils revêtent. Wallahu al-musta'an.
Al-Hafiz ibn Hajar a dit dans Al-Fath, si on objecte que n'ont pas été mentionnés la foi en les prophètes, les anges et d'autres choses incluses dans la question de Jibril, nous répondons que le sens de l'attestation est de croire aux enseignements du prophète. Donc cela implique l'ensemble des croyances mentionnées. Al-Ismaili a tenu des propos dans le sens et que cela est semblable au fait de nommer une chose par une de ses parties. Comme lorsque tu dis, j'ai récité louange à Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. En désignant ainsi l'ensemble de Surat al-Fatiha. De même, tu dis, j'atteste de la prophétie de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, visant ainsi l'ensemble de ce qu'il a mentionné. Et Allah est plus savant.
Naam. Ici, le Cheikh Abdel Mohsin, hafidahullah, a fait mention d'un passage du livre Fath al-Bari, dont l'auteur est Al-Hafiz. Al-Hafiz, ici, c'est-à-dire, ça signifie l'érudit. Naam. Et ça vise Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah. Donc Ibn Hajar, il a dit dans son livre Fath al-Bari, qui est le plus célèbre des commentaires du recueil authentique de l'imam al-Bukhari, il a dit, si on objecte que n'ont pas été mentionnés la foi en les prophètes, les anges et d'autres choses incluses dans la question de Jibril, nous répondons que le sens de l'attestation est de croire aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cela implique l'ensemble des croyances mentionnées. Donc ici, il a fait mention d'une objection qui pourrait être faite, une remarque, une question. Le fait que quelqu'un puisse en arriver à dire ou à remarquer que dans le hadith de Abdullah ibn Omar, il n'est pas fait mention de la foi en les prophètes, les anges et en d'autres choses incluses dans la question de Jibril et dans la réponse que lui a donnée le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. On se remémore justement cette réponse-là. Tout à l'heure, on s'est remémoré la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque cet homme qui s'est avéré être Jibril alayhi salam s'est présenté à lui et lui a dit « Oh Mohammed, informe-moi à propos de l'islam. » Le prophète alayhi salatu wasallam lui a dit « L'islam, c'est que tu attestes que nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, que tu accomplisses la prière et que tu t'acquittes de la zakat jusqu'à la fin, donc des piliers de l'islam. » Ensuite, Omar a dit, en s'exprimant donc au nom des compagnons alors présents, il a dit, nous avons donc été surpris. Il lui pose la question, puis il approuve sa réponse. Car cette manière d'agir, c'est un signe que le questionneur était au courant de la réponse. Suite à cela, le questionneur lui a dit, informe-moi à propos de la foi. Et là, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, la foi, c'est que tu crois en Allah, que tu crois en ses anges, ses livres, ses messagers, le jour dernier, et au destin, qu'il soit favorable ou défavorable. Donc ici, l'objection, la question, la remarque, qui a été soulevée par Ibn Hajar, rahimahullah, c'est que la foi en les prophètes, en les anges, et en d'autres choses incluses dans la question du Jibril, n'a pas été mentionnée. Quant à la foi à Allah, elle a été mentionnée. Étant donné que nous la retrouvons dans la première partie de la double attestation de foi. J'atteste que nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah. Cela renvoie à la foi à Allah, tabaraka wa ta'ala. Par contre, la foi en les prophètes, en les anges, et en d'autres choses incluses dans la question de Jibril, n'est pas présente ici dans le hadith de Abdullah ibn Omar. Étant donné que le prophète alayhi salatu wasalam y a dit, l'islam est basé sur cinq piliers, l'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah, et le jeûne de Ramadan. La réponse à cette objection, à cette remarque, à cette question, c'est le fait que mention est faite de l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah. Or cela implique forcément de reconnaître la véracité de ce au sujet de quoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a informé. Et je pense que personne parmi nous n'ignore les quatre implications de l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah, que nous avons vu à plusieurs reprises, notamment dans les trois fondements. Qui c'est qui peut nous les récapituler? les quatre implications de l'attestation que Mohammed alayhi salatu wassalam est le messager d'Allah. Naam.
Ce dont
tu
nous as informé. Eh ouais. Le suivi que
avec ce qui
nous a légiféré. Uh-huh. Nous écarter de ce qui nous a interdit.
Eh ouais.
Et lui obéir dans ce qui nous a ordonné.
Donc, lui obéir dans ce qui nous a ordonné. Délaisser, s'écarter de ce qu'il a interdit et réprouvé. Naam. Reconnaître la véracité de ce à propos de quoi il nous a informé. Et n'adorer Allah qu'en conformité avec ce qu'il a légiféré. Donc tu retrouves parmi ces quatre implications-là, qu'il est important de retenir et d'assimiler, barakallahu fikum, le fait de reconnaître la véracité de ce à propos de quoi il a informé. Tayyib. Parmi les choses à propos desquelles il a informé, il y a ce que nous retrouvons dans le hadith de Jibril, à savoir le fait que la foi, c'est la foi à Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et au destin, qu'il soit favorable ou défavorable. Également, Al-Isma'ili, rahimahullah, qui fait partie des ulama anciens, dont l'érudit Ibn Hajar nous rapporte les propos ici, il a dit que cela revenait à faire usage d'un procédé connu qui consiste à nommer une chose par une de ses parties. Tu dis Alhamd. Ici c'est répandu donc. Dans le Maghreb on dit Alhamdou. Quand on dit Alhamdou, ça désigne quoi? Ça désigne Al-Fatiha. Naam. En vérité, c'est quelque chose qui est connu des musulmans. Le fait d'appeler Al-Fatiha Alhamd. Naam. La louange. De l'appeler ainsi. Pourquoi? Parce qu'elle commence de la sorte. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et tu vas donc nommer l'ensemble de la sourate Al-Fatiha par une partie de cette sourate, à savoir Al-Hamd. Et donc là, c'est le même procédé auquel a eu recours le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, selon ce qu'a expliqué l'érudit Al-Isma'ili, rahimahullah.
Le plus important des cinq piliers, après les deux attestations, est la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrite en disant qu'elle était le pilier de l'islam, comme il apparaît dans le hadith du conseil qu'il adressa à Mu'ad ibn Jabal, qui est le hadith 29 de ses 40 hadiths.
Conseil ou recommandation, que c'est plus une wasiya, donc un conseil ou une recommandation qu'il adressa à Mu'ad ibn Jabal.
Il nous a également informé qu'elle serait le dernier rite de cette religion à ne plus être appliqué, et la première au sujet duquel le serviteur sera jugé au jour de la résurrection. Consulte à ce sujet El-Silsila As-Sahiha de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. C'est par elle que l'on différencie le musulman du mécréant, comme l'a rapporté l'imam muslim. L'accomplissement de la prière comprend deux parties. La première consiste à y accomplir un minimum requis de ce qui est obligatoire et qui affranchisse son auteur de toute responsabilité. Et la deuxième relève de ce qui est recommandé. Il s'agit de compléter et de parfaire tous les actes qui y sont recommandés.
Naam. À présent, le shir aborde le second pilier de l'islam, qui constitue le plus important des cinq piliers après les deux attestations de foi. Et c'est la prière. Suite à cela, il a exposé de manière brève et résumée l'importance, la place importante qu'occupe la prière dans la religion. Et il a abordé plusieurs points, qui sont au nombre de quatre. Premièrement, c'est un pilier de l'islam. Comme on va le retrouver par la suite, dans le hadith de Mu'ad ibn Jabal. Donc c'est un pilier de l'islam et c'est carrément donc le pilier sur lequel repose l'islam. Après, bien sûr, la double attestation de foi. Et on va retrouver cela, donc, et la manière dans le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, l'a expliqué. Deuxièmement, le fait que c'est le dernier rite de cette religion à ne plus être appliqué, c'est-à-dire à disparaître. Ce qui montre que ce rite-là, cette pratique cultuelle, du fait de son importance, elle va perdurer. Bien que bon nombre d'autres rites auront été abandonnés et auront disparu. Troisième point, c'est la première au sujet duquel le serviteur sera jugé au jour de la résurrection. Ça te montre son importance. Et quatrième point, c'est par elle que l'on différencie le musulman du mécréant, comme l'a rapporté Muslim, c'est-à-dire dans son recueil authentique. Tout ça, donc, ça te montre l'importance de la prière. Et il n'y a pas de doute que la prière, elle occupe une place importante dans la religion et qu'il est donc impératif de lui accorder justement cette importance-là et de ne surtout pas la négliger. Et selon l'avis le plus authentique, parmi les deux avis pour lesquels ont opté les gens de science, le délaissement de la prière, même si il est fait par paresse, est un annulatif de l'islam. Et ce, bien que un certain nombre de nobles ulama soient d'avis que ce n'est pas forcément le cas. Mais l'avis qui prévaut, si Allah le veut, c'est que le délaissement de la prière par paresse exclut celui qui s'en rend coupable de la sphère de l'islam. Et sans rentrer plus dans cette divergence-là, qui est une divergence ancienne, bien que certains personnage déviant à notre époque, essaie de faire croire qu'il y ait une qu'il y ait un consensus et une unanimité des ulama concernant la mécréance de celui qui délaisse la prière par paresse. Et en vérité, ces gens-là, ces personnes déviantes, ont un objectif bien précis derrière leurs affirmations. Ils cherchent par cela à dénigrer les ulama qui ont opté pour le fait que le délaissement de la prière par paresse n'annule pas forcément l'islam. Et ils en viennent même à les taxer d'irja. Al-irja qui est une des pires innovations que la communauté de l'islam ait pu connaître. Al-irja, ça signifie que le fait de retarder littéralement ou d'exclure les actes de la définition de la foi. Or, vous n'êtes pas sans savoir que la foi, et nous l'avons répété durant le cours dernier, c'est une croyance, une conviction avec le cœur, une parole avec la langue, et des actes avec les membres. Ça augmente par l'obéissance à Allah, et ça diminue par le fait de lui désobéir, subhanahu wa ta'ala. Al-irja, ça revient à exclure les actes de la définition de la foi. Et il faut savoir que les Mourdi'a, donc ceux qui ont adopté cette doctrine erronée et abjecte, ils sont arrivés donc où ils ont différents degrés. Ils ne sont pas tous au même degré d'égarement. Et certains sont pires que d'autres. Mais ils se réunissent dans le fait d'avoir exclut les actes de la définition de la foi. Quant aux ulama qui sont d'avis que le délaissement de la prière par paresse n'exclut pas celui qui s'en rend coupable de la sphère de l'islam, ils n'en sont pas arrivés à ce résultat-là en se basant sur ce principe-là, à savoir le fait d'exclure les actes de la définition de la foi. Mais ils se sont plutôt basés sur des preuves textuelle du Coran et de la Sunna pour en arriver à cette conclusion-là. C'est pour cela qu'il n'est pas permis de remettre en question leur intégrité religieuse ou la validité de la voie qu'ils suivent et de la méthodologie qu'ils empruntent, mais cela reste une divergence qui est connue entre les ulama. Mais il n'en reste pas moins que l'avis le plus sûr et le plus valable, si Allah le veut, c'est le fait que le délaissement de la prière, même s'il est fait par paresse, constitue un point qui exclut celui qui s'en rend coupable de la sphère de l'islam. Et donc, sans rentrer plus que cela dans cette divergence-là, nous disons à ceux qui se basent sur l'existence de cette divergence qui est réelle, afin de négliger la prière ou de légitimer le fait de la laisser totalement ou en partie, nous disons qu'en vérité, le musulman véridique qui sait avec certitude qui va être jugé par Allah tabaraka wa ta'ala, d'autant plus s'il sait que la première des choses au sujet desquelles le serviteur sera jugé au jour de la résurrection, c'est la prière, il ne peut pas se permettre d'en venir à la négliger. Car c'est là quelque chose de primordial qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à l'accomplir comme il se doit. Justement, l'accomplissement de la prière, ça comprend deux parties, comme l'a expliqué le Cheikh Abdel Mohsin dans la suite de ses propos. Il a dit l'accomplissement de la prière comprend deux parties. La première consiste à y accomplir le minimum requis de ce qui est obligatoire. Tout ce qui constitue les piliers, avant cela les conditions, ainsi que les obligations, tu te dois donc de l'accomplir. Et c'est là le minimum requis. Et c'est cela qui affranchit son auteur de toute responsabilité dans le sens où il n'est plus redevable de la prière qu'il vient d'accomplir s'il l'a accomplie en accomplissant ce qui est obligatoire. La deuxième partie, c'est ce qui relève de ce qui est recommandé, c'est-à-dire ce qui est recommandé dans la religion concernant la prière, sans pour autant être obligatoire. Il s'agit de compléter, de parfaire tous les actes qui y sont recommandés. Donc la première partie, elle est obligatoire, et la seconde, elle est recommandée. Et ça consiste donc à accomplir la prière, en accomplissant ce qui constitue des piliers, ce qui constitue des obligations, avant cela ce qui constitue des conditions, et y ajouter ce qui fait partie des choses recommandées et qui viennent parfaire et compléter cette prière-là et qui viennent également l'embellir.
La zakah est liée à la prière dans le livre d'Allah et la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction approximative de sa parole, si par la suite ils se repentent, accomplissent la prière et acquittent la zakah, alors ne leur faites aucun mal. Et il dit, si par la suite ils se repentent, accomplissent la prière et acquittent la zakah, ils sont vos frères en religion.
Non, sans être catégorique, il me semble qu'il est plus correct de dire et s'acquittent de la zakat, que ce soit dans la traduction approximative du sens du premier verset ou du second. Il me semble, wallahu a'lam, et je vous invite à vérifier, qu'on dira plutôt s'acquitter de, plutôt que acquitter la zakat. Naam.
Il dit, il ne l'a pourtant été ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière et de payer la zakat. Et voilà la religion de droiture. C'est une adoration matérielle dont l'utilité ne se limite pas à celui qui s'en acquitte, mais s'étend à autrui. Allah a rendu la zakah obligatoire concernant les biens des riches. Il a prescrit ses modalités afin qu'elle puisse être utile aux pauvres, sans nuire aux riches, puisqu'il s'agit d'une part minime extraite de biens considérables.
Donc ici le Cheikh Abdel Mohsin, il a mis en avant l'importance de ce troisième pilier qui est la zakat, le fait de s'acquitter de la zakat. Et il a expliqué que bien souvent elle est liée à la prière dans le livre d'Allah et dans la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens où ces deux piliers sont souvent mentionnés ensemble, comme c'est le cas ici dans ce premier verset dont la traduction approximative du sens est la suivante: si par la suite ils se repentent, accomplissent la prière et s'acquittent de la zakat, alors ne leur faites aucun mal. Et dans le deuxième, si par la suite ils se repentent, accomplissent la prière et s'acquittent de la zakat, ils sont vos frères en religion. D'ailleurs, ce second verset est bien souvent utilisé comme preuve afin d'affirmer que le délaissement de la prière, même s'il est le résultat de paresse, exclut celui qui se rend coupable de la sphère de l'islam. La question peut se poser alors, pourquoi à ce moment-là ne pas considérer également le délaissement de la zakat qui est fait par paresse comme étant quelque chose qui est exclu de l'islam, étant donné que ces deux choses sont mentionnées dans le même texte? La réponse, c'est que, afin de comprendre chaque sujet que tu abordes dans la religion, tu te dois de réunir les textes. Et comme cela a été rapporté de nombreux ulama parmi les salafs, entre autres l'imam Ahmed ibn Hanbal, ainsi que son contemporain Yahya ibn Ma'in, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Donc il a été rapporté d'eux qu'il disait que une question dans la religion, tu ne pourras réellement la comprendre qu'à partir du moment que tu auras réuni tout ce qui la concerne. Il faut donc réunir les textes afin que tu puisses comprendre correctement ce qui est voulu de ces textes-là. Dans certains hadiths authentiques, nous retrouvons le fait que celui qui avait délaissé dans ce bas monde l'acquittement de la zakat va lui être montré, ou va lui être montré, sa demeure future, soit au paradis, soit en enfer. C'est-à-dire le jour de la résurrection, il va être montré, ou il va être montré à celui qui avait délaissé la zakat, sa demeure future, soit au paradis, soit en enfer. Et le fait qu'il soit envisageable qu'il entre au paradis montre bien que le fait d'avoir délaissé la zakat par paresse, par négligence, ne fait pas sortir de l'islam. Et il n'a pas été rapporté la même chose concernant la prière. C'est pour cela donc que le délaissement de chacun de ces deux piliers est bien distinct. Et le cas de celui qui délaisse la prière par paresse est différent du cas de celui qui délaisse la zakat par paresse. Suite à cela, donc, le shir, il a expliqué que la zakat, c'est une adoration matérielle, c'est-à-dire qui est liée au bien. Qui est liée au bien. La prière, c'était une adoration corporelle. La zakat, c'est une adoration matérielle. Na'am. Dont l'utilité ne se limite pas à celui qui s'en acquitte, mais s'étend à autrui. Et ce point-là, retenez-le, car nous allons voir qu'il explique le fait que la zakat précède le jeûne de Ramadan. Tant donné donc que l'utilité de cette adoration, de ce pilier-là, ne se limite pas à celui qui s'en acquitte, mais s'étend à autrui. C'est-à-dire que son utilité n'est pas restreinte, mais sa portée est plus large et elle s'étend à autrui. Et les détails donc de cette adoration-là sont abordés dans d'autres types de livres, notamment les livres de fiqh. Et nous aurons peut-être l'occasion ensemble d'en aborder certaines à travers la lecture du livre Le Sentier ou la Voie des Itinérants de l'imam Cheikh Sa'di rahimahullah ta'ala. Et vas-y.
Le jeûne du mois de Ramadan est une adoration corporelle.
Là, pareil, normalement, c'est le jeûne de Ramadan. Mais bon, c'est un détail. Le jeûne de Ramadan.
Le jeûne de Ramadan est une adoration corporelle. C'est un secret entre le serviteur et son Seigneur. Seul Allah, subhanahu wa ta'ala, sait ce qu'il fait. Car pendant le mois de Ramadan, certaines personnes peuvent rompre le jeûne alors qu'on pense qu'elles jeûnent. Ou à l'inverse, un individu peut accomplir un jeûne surérogatoire alors qu'on pense qu'il ne jeûne pas.
Surérogatoire. En opposition à obligatoire. Tu as le jeûne obligatoire et celui qui ne l'est pas. Le terme surérogatoire, il m'est arrivé de l'utiliser à de nombreuses reprises et il s'avère qu'en vérité ce n'est pas un terme qui est approprié ici. Et il n'est pas bon d'utiliser ce terme pour désigner des adorations. Pourquoi ? Parce que le terme surérogatoire, bien qu'il signifie quelque chose qui n'est pas obligatoire, on retrouve également qu'il comprend ou qu'il contient le sens de ce qui n'a pas de valeur. Ce qui n'est bien sûr pas le cas de ce qui est visé ici. Ce qui est nafl ou la nawafil, c'est le terme utilisé en arabe. En arabe, nafl, le pluriel donc nawafil. Car ces choses-là, donc c'est nawafil, que l'on pourrait donc traduire par les actes volontaires. Donc on pourrait dire ici, ou à l'inverse, un individu peut accomplir un jeûne volontaire, c'est-à-dire venant de lui-même, sans qu'il ne soit obligatoire. On retrouve que ces actes-là, qui sont des actes volontaires, qui ne sont pas obligatoires, bien qu'ils soient moins importants que les actes obligatoires, ils ont une grande place dans l'islam. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, dans ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a rapporté de lui, mon serviteur ne cherche à se rapprocher de moi avec une chose qui m'est plus aimée que ce que je lui ai rendu obligatoire. Et mon serviteur ne cesse de chercher à se rapprocher de moi avec des actes volontaires jusqu'à ce que je l'aime. Et ce hadith, donc, on va l'aborder, bi'idhnillah, étant donné qu'il est contenu dans les 40 hadiths d'An-Nawawi. Donc, tu vois qu'ici, les actes volontaires, qui ne sont pas obligatoires, qui sont recommandés dans la religion, ils occupent une place importante. Étant donné qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit, après ce qu'a rapporté de lui son messager sallallahu alayhi wa sallam, et mon serviteur ne cesse à chercher à se rapprocher de moi avec des actes volontaires jusqu'à ce que je l'aime. Donc, ce qu'il y a au bout de l'accomplissement des actes volontaires, à condition bien sûr qu'ils soient exclusivement voués à Allah tabaraka wa ta'ala et qu'ils soient en conformité avec la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il y a au bout de l'accomplissement de ces actes-là, c'est l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Donc c'est pour ça qu'on utilisera plutôt le terme volontaire ici, au lieu de surérogatoire.
C'est pourquoi il est rapporté dans le hadith authentique que l'homme est récompensé pour ses œuvres. La bonne action a de 10 à 700 fois sa récompense. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, sauf le jeûne, car il m'appartient, et c'est moi qui le récompenserai. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. C'est-à-dire, sans limite. Et toutes les œuvres sont à Allah subhanahu wa ta'ala, comme il dit dans la traduction approximative de sa parole, dit, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Il n'a pas d'associé. Voilà ce qu'il m'a été ordonné et je suis le premier à me soumettre. Le jeûne a été spécifié dans ce hadith comme appartenant à Allah en raison du secret de cette adoration que seul Allah connaît.
Non, donc ici on retrouve le quatrième pilier de l'islam, à savoir le jeûne de Ramadan, qui cette fois-ci est une adoration corporelle. Donc on récapitule, on a eu la prière qui est une adoration corporelle, la zakat qui est une adoration matérielle, et on retrouve ici une autre adoration corporelle, à savoir le jeûne, siyam, le jeûne de Ramadan. Et c'est un secret entre le serviteur et son Seigneur. Car en vérité, seul Allah tabaraka wa ta'ala connaît l'état dans lequel se trouve son serviteur, s'il jeûne ou pas. Au moins que bien sûr ce dernier ne le divulgue. Mais à la base, personne ne peut connaître cela. Et comme l'a dit le shir ici, il est possible que pendant le mois de Ramadan, certaines personnes rompent leur jeûne en secret. et que les gens pensent qu'il est en train de jeûner, alors que ce n'est pas le cas. Mais Allah tabaraka wa ta'ala le sait. De même qu'il est possible qu'une personne, en dehors de la période de Ramadan, accomplisse un jeûne volontaire, qu'elle soit en train de jeûner, que les gens pensent qu'elle ne jeûne pas. Donc c'est dans ce sens-là que c'est quelque chose, c'est un secret entre le serviteur et Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est ce qui confère à cette adoration-là cette place importante qui apparaît clairement du fait qu'à l'inverse, plutôt que contrairement aux autres adorations, aux autres bonnes actions qui sont récompensées de 10 à 700 fois leur récompense, Allah tabaraka wa ta'ala a dit sauf le jeûne, car il m'appartient et c'est moi qui le récompenserai. Et c'est moi qui le récompenserai dans le sens où cette récompense-là sera sans limite, comme l'a expliqué le shir Abdel Muhsin, hafidhahullah ta'ala.
L'accomplissement du pèlerinage à la maison sacrée d'Allah est une adoration matérielle et corporelle. Allah l'a rendue obligatoire une fois dans l'existence. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré sa vertu en disant « Celui qui accomplit le pèlerinage vers cette maison sans avoir aucun rapport sexuel et sans commettre de désobéissance à Allah, revient chez lui comme au jour de sa naissance. »
Comme au jour de sa naissance, ou pour rester plus littéral, comme au jour où sa mère l'a enfanté, ce qui revient à la même chose.
Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et sa parole, l'accomplissement d'une umrah après une autre est une expiation des péchés commis entre elles. Et le pèlerinage agréé n'a de récompense que le paradis. Rapporté par Muslim.
Naam. Cinquième pilier, l'accomplissement du pèlerinage à la maison sacrée d'Allah. Et c'est cette fois-ci une adoration qui est à la fois matérielle et corporelle. Elle est matérielle et corporelle. Donc nous avons des adorations, des piliers qui sont corporels, d'autres qui sont matériels et d'autres qui sont matériels et corporels. Et Allah l'a rendu obligatoire une fois dans l'existence. Et nous retrouvons cela, excusez-moi, dans un hadith authentique dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons « Certes, Allah vous a rendu obligatoire le pèlerinage, accomplissez-le donc. » Un homme s'est alors levé et a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam « Est-ce que nous devons faire cela chaque année au messager d'Allah ?» Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est tu, il ne lui a pas répondu. Le questionneur a répété sa question. Est-ce que c'est chaque année au messager d'Allah? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, après s'être tu à une ou deux reprises, lui a répondu, si jamais j'avais dit oui, alors ça vous serait devenu obligatoire et vous n'auriez pas pu l'accomplir. Laissez-moi donc tant que moi-même je vous laisse. Laissez-moi donc tant que moi-même je vous laisse. Car ce qui a causé la perte des communautés qui sont venues avant vous, c'est le fait qu'ils posaient trop de questions et le fait qu'ils divergeaient avec leurs prophètes. Donc on retient ici que le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas dit oui. Ce qui signifie donc que le pèlerinage n'est pas obligatoire chaque année. Et cela apparaît donc clairement dans la suite de la réponse du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est obligatoire une fois dans l'existence. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré sa vertu en disant « Celui qui a accompli le pèlerinage vers cette maison, c'est-à-dire la Kaaba, la maison sacrée d'Allah, tabaraka wa ta'ala, sans avoir aucun rapport sexuel et sans commettre de désobéissance à Allah, revient chez lui comme au jour où sa mère l'a enfanté. » Et ce hadith a été recueilli par Al-Bukhari Muslim. Également dans sa parole, l'accomplissement d'une umrah après une autre est une expiation des péchés commis entre elles et le pèlerinage agréé n'a de récompense que le paradis. Hadith qui cette fois-ci est rapporté uniquement et recueilli par l'imam Muslim, rahimahullah.
Dans ce hadith, sous cette formulation, le pèlerinage a été cité avant le jeûne. Et c'est sous cette formulation que l'on rapportait Al-Bukhari au début du livre de la foi dans son Sahih. Et il s'est fondé sur cela pour organiser son ouvrage Al-Jami' al-Sahih.
Al-Jami' al-Sahih, c'est le nom résumé du recueil authentique de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, que nous connaissons comme étant Sahih. On dit Sahih al-Bukhari. Son titre est bien plus long et je ne l'ai pas en tête au moment où je vous parle. Et le résumé de ce titre-là, c'est Al-Jami' al-Sahih.
Faisant ainsi figurer le livre du pèlerinage avant le livre du jeûne. Le hadith est également rapporté dans le Sahih Muslim avec la mention du jeûne avant le pèlerinage. Il a également été rapporté, il a également rapporté la version où le hajj est mentionné avant le jeûne. Ibn Omar a voulu montrer clairement que ce qu'il a entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est qu'il mentionna le jeûne avant le pèlerinage. Ainsi, la mention du pèlerinage avant le jeûne dans certaines versions est attribuée à certains transmetteurs ou encore à des versions qui étaient rapportées dans le sens. La formulation dans le Sahih Muslim d'après Ibn Omar qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'islam est basé sur 5 piliers, que l'on professe l'unicité d'Allah, accomplisse la prière, s'acquitte de la zakah, jeûne le mois de Ramadan et accomplisse le pèlerinage. » Un homme dit « Le pèlerinage est le jeûne du mois de Ramadan ?» Il répondit « Non, le jeûne du mois de Ramadan ou le jeûne de Ramadan est le pèlerinage. » C'est ainsi que je l'ai entendu du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam.
Sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Donc ici, le Cheikh Abd al-Muhsin, hafidhahullah, a abordé donc un détail qui peut cependant soulever les interrogations de certains, à savoir le fait qu'ici nous retrouvons, dans le hadith donc de Abdullah ibn Omar, nous retrouvons le pèlerinage et nous retrouvons le jeûne du mois de Ramadan. Ces deux adorations que nous avions déjà abordées dans la réponse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au questionneur qui s'est avéré être Jibril alayhi salam. À la différence que dans la réponse donnée à Jibril, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné le jeûne de Ramadan avant le pèlerinage. Alors qu'ici, c'est le pèlerinage qui est mentionné en premier. Il s'avère, comme l'a expliqué le Cheikh ici, et vous le retrouvez dans ces quelques lignes, la mention du pèlerinage avant le jeûne, Naam, dans certaines versions, est à attribuer à certains transmetteurs. C'est-à-dire aux agissements de certains transmetteurs. Il est possible que certains transmetteurs du hadith aient fait passer la mention du pèlerinage avant la mention du jeûne. Ou encore à des versions qui étaient rapportées dans le sens, car c'était quelque chose qui était connu, le fait que les hadiths soient rapportés dans leur sens, avec bien sûr des conditions. Parmi les conditions, il faut que le rapporteur, donc, il connaisse et il maîtrise les sens et les significations contenues dans les termes du hadith. À partir du moment qu'il maîtrise cela, il avait la possibilité de rapporter les hadiths selon le sens. Et il est possible que ce soit cela qui se soit produit ici et qui ait eu comme résultat le fait que le pèlerinage, dans certaines versions, soit mentionné avant le jeûne. Alors qu'en vérité, c'est le jeûne qui doit être mentionné en premier. Naam.
Ces 5 piliers sont classés dans le hadith en fonction de leur importance. On débuta par les 2 attestations qui sont le fondement de toute œuvre par laquelle on se rapproche d'Allah, subhanahu wa ta'ala.
Et ça, donc, on a insisté sur l'importance de ce premier pilier, de cette double attestation de foi, de ces 2 fondements de la religion, de ces 2 bases fondamentales de la voie des adeptes de la sunna et du groupe uni sur la vérité, salafiyyin. Et également, ces 2 conditions qui constituent les conditions de l'acceptation des œuvres.
Puis la prière, qui se répète 5 fois de jour et de nuit, et qui est le lien ferme entre le serviteur et son Seigneur.
Yarhamukallah. Naam. Et également, on a abordé cela.
Puis la zakah, obligatoire sur les biens lorsqu'une année s'est écoulée, car son utilité s'étend aux autres.
Naam. Son utilité s'étend aux autres. À l'inverse du jeûne, qui vient en 4e position et qui occupe également une place très importante dans la religion, mais dont l'utilité est restreinte à celui qui l'accomplit. C'est pour cela donc qu'il vient après la zakat.
Puis le jeûne obligatoire un mois dans l'année, qui est une adoration du corps dont l'utilité est restreinte à la seule personne qui s'en acquitte, sans s'étendre à autrui. Puis le pèlerinage, qui n'est obligatoire qu'une fois dans l'existence.
Na'am. Donc ici, tu as le mois de Ramadan, ou le jeûne du mois de Ramadan, et tu as également l'accomplissement du pèlerinage. Ces deux adorations-là, leur portée est une portée restreinte à celui qui les accomplit. Mais la différence se manifeste dans le fait que le jeûne du Ramadan est obligatoire un mois dans chaque année, alors que l'accomplissement du pèlerinage n'est obligatoire qu'une seule fois dans l'existence. C'est pour cela que le jeûne est mentionné avant le pèlerinage.
On rapporte dans Sahih Muslim que Ibn Omar, radiallahu anhuma, rapporte ce hadith lorsqu'un homme lui demanda « Ne vas-tu pas combattre ?» Ainsi, il rapporta le hadith et cela montre que le djihad ne fait pas partie des piliers de l'islam, car les cinq piliers sont constamment obligatoires pour toute personne religieusement responsable. Contrairement au djihad, qui est une obligation solidaire, fardu kifaya, qui n'a pas lieu constamment.
Non, une obligation solidaire ou une obligation communautaire, en opposition aux obligations individuelles. Tu as deux types d'obligations, si tu prends en compte ceux qui en sont redevables. Obligations communautaires qui relèvent de ce qui est appelé fardu kifaya et traduit ici comme étant obligations solidaires. Ça correspond à ceux qui, lorsqu'une partie suffisante de la communauté s'en charge, n'incombe plus au restant des membres de la communauté. Ce qui, lorsqu'une partie suffisante, importante, de la communauté s'en charge, n'incombe plus au restant des membres de la communauté. C'est ce qu'on appelle donc fardu kifaya, c'est ce que l'on appelle une obligation communautaire, et c'est ce qu'on peut également appeler une obligation solidaire, comme l'a exprimé ici le traducteur, وَفَقَهُ اللَّهُ. Et il y a également donc ce que l'on appelle fardu ayn, ce qui est une obligation individuelle et qui incombe tout un chacun d'accomplir. Na'am. Donc contrairement au djihad qui est une obligation communautaire et qui n'a pas lieu constamment. Donc cela c'est à la base, bien qu'il puisse y avoir certains cas de figure où il devient une obligation individuelle dans certains cas particuliers. Et il n'a pas lieu constamment. C'est-à-dire que le djihad, il a lieu lorsque les conditions du djihad sont réunies. Et le djihad, c'est une adoration éminente, comme nous allons le voir à travers certains hadiths. Et le djihad, ce n'est pas du désordre. Le djihad, ce n'est pas livré aux appréciations et aux estimations du premier venu. Mais le djihad, c'est une adoration à part entière qui répond à des conditions qui doivent être réunies. Et il n'a pas lieu constamment. Et ce n'est pas tout combat qui est prétendu comme étant un djihad qui est réellement un djihad. Et c'est important à notre époque de le mentionner. Car combien de gens obéissent à leurs émotions et à leurs passions ou à leurs intérêts? Combien de groupes se réclamant de l'islam se rendent coupables également de cela et prétendent faire le djihad, alors qu'en vérité leurs agissements sont bien loin du djihad? Et les exemples sont nombreux. Donc pour en revenir ici au propos du shir, le djihad qui est une obligation communautaire et qui n'a pas lieu constamment, étant donné donc que forcément il faut que des conditions soient réunies et que ces conditions ne sont pas forcément tout le temps réunies et que quand elles sont réunies, eh bien il y a djihad, et quand elles ne sont pas réunies, il n'y a pas de djihad.
Les enseignements du hadith. Premièrement, l'importance de ces cinq piliers, car l'islam est bâti sur eux. Deuxièmement, la comparaison d'éléments abstraits à des éléments matériels, afin de faciliter leur compréhension. Troisièmement, commencer par ce qui est le plus important. Quatrièmement, les deux attestations sont un fondement en soi et un fondement pour d'autres.
Alors, je ne sais pas, je ne suis pas sûr là non plus, je ne serai pas catégorique, mais il me semble qu'il serait plus correct de dire les deux attestations sont ou constituent un fondement en elles-mêmes et un fondement pour d'autres. Ainsi, l'œuvre n'est acceptée que si elle est basée sur les deux attestations.
Et cinquièmement, la prière est mentionnée avant les autres œuvres, car elle est le lien ferme entre le serviteur et son seigneur.
Na'am. Donc ici, le shir Abdel Mohsin, hafidhahullah, a énuméré ces cinq enseignements parmi les enseignements contenus dans ce hadith en tant que récapitulatif de ce qui a été abordé dans son commentaire. Jazahullahu khayra. Et également, afin d'insister sur ces quelques enseignements-là, qu'Allah l'en récompense et qu'il récompense l'ensemble des ulama de l'islam, qu'il fasse miséricorde à ceux qui sont morts et qu'il préserve ceux qui sont encore vivants. Et on va s'en tenir à cela pour aujourd'hui. Et nous continuerons, Inch'Allah, la prochaine fois avec le hadith numéro 4, qui est le hadith rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu an. Il y a ici un sujet important qui m'est venu à l'esprit après la prière. Pour ça que je vous les ai laissé quelques instants, le temps d'aller chercher le livre. Et que je souhaitais aborder avec vous, hafidhakumullah, un sujet qu'il est important de rappeler, bien qu'il soit connu à la base et qu'il soit clair. C'est le fait que cette religion-là, cette science que nous aspirons tous à étudier, c'est quelque chose de précieux. Et malheureusement, on peut faire le constat de temps à autre que certains frères et sœurs, et c'est certainement dû à leur soif d'apprendre, et également, c'est certainement animé par de bonnes intentions, font preuve d'une certaine précipitation dans la manière de considérer les gens qui se présentent à eux afin de leur enseigner la religion. Et parfois, ça les mène à fermer les yeux sur certaines choses qui normalement sont censés être acquises. Et ça les mène parfois à faire confiance à certaines personnes alors qu'elles ne le connaissent pas. C'est pour cela que j'ai voulu lire avec vous certains passages de l'introduction du recueil authentique de l'imam Muslim, rahimahullah. Cette introduction qui est relativement longue, et on va en lire certains passages dans lesquels il fait mention de certains textes de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de certaines paroles qui ont été rapportées des pieux prédécesseurs de cette communauté. Parmi ce qu'il a dit, il a dit « Et Muhammad ibn Abdullah ibn Numayr ainsi que Zuhair ibn Harb nous ont informés en disant que Abdullah ibn Yazid les a informés, en disant que Saïd ibn Abi Ayyub l'a informé, que Abu Hani l'a informé, d'après Abu Uthman, Muslim ibn Yasar, d'après Abu Huraira, d'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, il va y avoir, à la fin de cette communauté des gens, qui vont s'adresser à vous en vous disant des choses que ni vous ni vos ancêtres n'avez entendues. Méfiez-vous donc d'eux et soyez donc sur vos gardes vis-à-vis d'eux. Donc dans ce hadith, nous retrouvons que Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a informé du fait que va venir un temps où des personnes vont venir s'exprimer à propos de la religion et en disant des choses inédites qui n'ont jamais été entendues auparavant. Il faut donc être sur nos gardes vis-à-vis de ce genre de personnes-là. Également, un peu plus loin, l'imam Muslim rahimahullah a dit, et Abu Ayyub Sulayman ibn Ubaidillah al-Ghaylani, excusez-moi, m'a informé que Abu Amir, c'est-à-dire Al-Aqadi, nous a informé que Rabah nous a informé, d'après Qais ibn Sa'd, d'après Mujahid, qui a dit que Bushayr al-Adawi est venu vers Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Et il a commencé à transmettre certains récits en disant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et c'est alors qu'Ibn Abbas radiyallahu anhuma n'a pas prêté attention à son discours et n'a pas prêté attention à sa personne, c'est-à-dire à la personne de Bushayr al-Adawi. Et c'est alors que ce dernier, c'est-à-dire Bushayr al-Adawi, il lui a dit, « Oh Ibn Abbas, qu'ai-je donc à ne pas te voir prêter l'oreille à mes hadiths alors que je ne fais que transmettre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et toi, tu n'y prêtes pas attention alors que tu n'as pas connaissance de ces hadiths. » Ibn Abbas radiyallahu anhuma lui a répondu, auparavant, lorsque nous entendions un homme dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous nous précipitions et nous prêtions attention. Nous nous précipitions vers lui et nous prêtions attention à lui et nous tendions l'oreille à ce qu'il disait. Cependant, lorsque les gens ont commencé à avoir recours au mensonge, nous nous sommes mis à ne prendre des gens que de ceux que nous connaissions. Que de ceux que nous connaissions. Donc ici, Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, lorsque Bushayr al-Adawi, il s'est présenté et qu'il a commencé à transmettre des hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas prêté attention à lui. Il n'a pas écouté ce qu'il disait. Est-ce que cela signifie que Bushayr est considéré comme quelqu'un qui n'est pas intègre, qui n'est pas digne de confiance? Non. Ça signifie que du fait qu'il n'est pas connu, on ne prête pas attention à ce qu'il dit à propos de la religion jusqu'à ce que nous le connaissions. D'ailleurs, si nous retournons à la brève biographie de Bushayr, que nous trouvons dans le livre Taqrib al-Tahdhib d'Ibn Hajar, et ça bien sûr c'est un condensé, c'est un résumé, nous trouvons que quand il parle donc de Bushayr, il dit Bushayr, donc Musaghar, comme ça, donc Bushayr et non pas Bashir, Bushayr, il est Ibn Ka'b, Ibn Abi Al-Himyari Al-Adawi, Abu Ayyub Al-Basri, Thiqa, c'est-à-dire digne de confiance, Mukhadram, Mukhadram dans le sens où il a vécu à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sans pour autant le rencontrer sallallahu alayhi wa sallam. Et il faisait partie de la deuxième génération de rapporteurs. Donc Bushayr, c'est quelqu'un qui était digne de confiance, quelqu'un d'intègre. Cependant, du fait qu'Ibn Abbas radiyallahu anhuma ne le connaissait pas, il n'a pas prêté attention à ce qu'il disait. Il n'a pas prêté attention à ce qu'il disait. Et il a argumenté en disant qu'auparavant, lorsque quelqu'un se présentait à eux, c'est-à-dire se présentait aux compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il faisait mention de hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il se précipitait vers lui et le regardait, prêta attention à lui et ils écoutaient ce qu'il disait. Puis, lorsque les gens commençaient à avoir recours au mensonge, nous avons commencé à ne prendre des gens que de ceux que nous connaissions. Également, l'imam Muslim, dans son introduction, il a dit, Hassan ibn Rabi' nous a informé en disant que Hammad ibn Yazid nous a informé d'après Ayyub et Hisham, d'après Muhammad, et également Fudayl nous a informé d'après Hisham, en disant que également Makhlad ibn Hussein nous a informé d'après Hisham, et donc d'après Muhammad ibn Sirin, qui a dit, certes, cette science est une religion, regardez donc de qui vous prenez votre religion. Et ça, c'est une phrase qui est connue, qui constitue un des fondements, un des principes fondamentaux de la base, de la voie des pieux prédécesseurs. Bien que certaines personnes, et je ne sais pas si c'est dû à de l'insouciance de leur part, ou si c'est une ruse venant d'eux, en viennent à minimiser de l'importance de ce genre de paroles-là. Il m'est parvenu que certains ont dit, cette science est une religion, regardez donc de qui vous prenez cette religion. Certains jeunes, ils en viennent à connaître cette parole-là avant même de connaître le Fatiha. Cette parole-là, à mon avis, c'est une pure exagération, d'une part. Et d'autre part, nous pouvons dire, et quel reproche aurais-tu à faire si une personne, se basant sur ce principe-là, à savoir le fait que cette science-là est une religion, regardez donc de qui vous prenez cette religion, il en viendrait à faire attention dans le choix de la personne qui va lui apprendre le Fatiha, et qu'il va donc s'orienter en se basant sur ce principe-là vers une personne qui maîtrise elle-même la Fatiha, afin de ne pas se retrouver peut-être pendant des années durant, comme certaines personnes, à réciter la sourate d'Al-Fatiha d'une manière tordue. Quel reproche vas-tu lui faire? Et en vérité, c'est une manière ici exagérée d'en arriver à remettre en question l'importance de ce genre de discours-là. Et en vérité, ces principes-là, qui sont des principes fondamentaux qui constituent les bases de la voie des pieux prédécesseurs, tu trouveras des gens qui en viennent à les dénigrer, et on pourrait en mentionner d'autres parmi ces principes-là, mais ce n'est peut-être pas ici le contexte. Également, une autre parole que nous retrouvons dans l'introduction, et c'est peut-être la dernière qu'on va mentionner aujourd'hui, que nous retrouvons dans l'introduction de l'imam Muslim, rahimahullah, et elle fait suite justement à celle que vous venez d'entendre. Et lorsqu'il a dit, Abu Ja'far, Muhammad ibn Sabbah nous a informé en disant que Ismaïl ibn Zakariya nous a informé d'après Asim al-Ahwal, d'après Ibn Sirin, qui a dit auparavant, donc en parlant des compagnons de ceux qui l'ont précédé, étant donné qu'Ibn Sirin fait partie de la deuxième génération de l'islam et qu'il est mort en 110 de l'Hégire. Il a dit auparavant, il ne questionnait pas à propos de la chaîne de transmission. Cependant, lorsque les troubles sont apparus, notamment donc la mort de Uthman, ils ont commencé à dire, faites-nous mention de vos hommes. Et c'est ainsi qu'était prise en compte, est-ce que le rapporteur faisait partie des adeptes de la sunna et qu'ainsi son hadith était accepté, ou est-ce qu'il faisait partie des partisans de l'innovation et que son hadith n'était pas pris en compte. Ben, la question se pose ici, pour en revenir à notre sujet. Si tu ne connais pas la personne, comment peux-tu savoir qu'il fait partie des membres de la sunna, des adeptes et des partisans de la sunna, ou s'il fait partie des adeptes de l'innovation? Si tu ne poses pas la question, tu ne peux pas savoir. Et le simple fait que quelqu'un vienne avec le badge, entre guillemets bien sûr, de l'université islamique de telle ou telle ville, ou se présente comme venant de tel ou tel endroit, ou comme ayant étudié chez un tel ou un tel, en vérité, ne change rien à la donne. tant que cette personne-là est inconnue. Et tant que personne n'atteste du fait que c'est quelqu'un d'intègre qui est connu, effectivement. Car combien sont ceux qui se cachent derrière des faux-semblants afin d'induire en erreur. Et il ne s'agit pas ici de sans cesse tomber dans les mêmes pièges. Et il ne s'agit pas ici de sans cesse tomber dans les mêmes pièges, car ces dernières années, nous avons pu remarquer que la jeunesse sunnite de France s'est parfois fait berner par certaines personnes qui se réclamaient de la sunna alors qu'ils en sont étrangères, et on ne citera pas de nom. Après que ces troubles soient passés, il convient de retenir les leçons et de ne pas se précipiter lorsque le premier venu arrive en disant « Je suis un tel, Abu un tel, et je viens de telle ville, et j'assiste à tel et tel cours de tel et tel savant, et que cela suffit. » Non, il faut patienter, prendre du recul, poser la question. Et cela ne signifie pas, et cela ne doit pas forcément mener à avoir une mauvaise opinion de la personne. Et il ne t'est pas demandé d'en rajouter, il ne t'est pas demandé de dire telle personne, c'est quelqu'un qui n'est pas intègre, telle personne, ce n'est pas un salafi, ou telle personne est un ignorant, mais il s'agit plutôt de dire telle personne, nous ne la connaissons pas, donc à partir de ce moment-là, nous ne nous avançons pas à assister à ses cours, ou à écouter ses cours, ou à lire ce qu'il produit comme écrit, jusqu'à ce que nous sachions qui il est. Et c'est là quelque chose qui est tout à fait légitime, et on va s'en tenir à cela pour aujourd'hui. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين